Et aujourd'hui, je rencontre Marianne. Bonjour Marianne.
Bonjour.
Voilà, par téléphone, ça arrive, hein, ce que j'ai expliqué. C'est aussi pratique pour les deux. Hein, et puis au moins, on ne se rate pas. Marianne, tu es là avec nous au téléphone pour nous expliquer un petit peu ce que tu fais et pour nous parler aussi de ce que tu fais au local paysan. Ce que tu fais, c'est tu es donc productrice de miel et tu as une entreprise qui a pour titre nom la ferme apicole Maya.
Et c'est ça.
C'est ça. Bon, jusque-là, c'est bon, j'ai tout juste, c'est cool.
Oui.
Et ma première question, un peu comme je la pose un peu à tous mes invités producteurs depuis le début, c'est tu faisais du miel depuis toujours ? T'es apicultrice depuis toujours, on peut dire comme ça ?
Oui. Alors, apicultrice professionnelle, non, forcément, puisque je suis installée en jeune agricultrice depuis fin d'année 2023. Mais effectivement, c'est quelque chose que je pratiquais un petit peu auparavant, mais plutôt pour le loisir, quoi.
D'accord.
J'étais pas du tout vouée à terminer apicultrice professionnelle, quoi. C'était.
Alors, savoir, tu étais vouée à quoi ?
J'étais auxiliaire spécialisée vétérinaire. Je travaillais en clinique vétérinaire, tout simplement.
Ouais, d'accord.
Donc, je soignais des animaux un petit peu plus gros.
Carrément, ouais.
Mais voilà, j'ai eu une opportunité de m'installer sur une exploitation, reprendre une exploitation. Donc j'ai saisi une opportunité.
Et qu'est-ce qui t'a fait changer de métier ? Qu'est-ce qui t'a décidé comme ça à changer de vocation, on va dire ?
Eh bien, en fait, je suis devenue maman. J'ai eu ma fille. Et c'est vrai que quand on travaille dans une clinique vétérinaire, enfin voilà, c'est des métiers qui sont très prenants, qui demandent énormément de temps, et j'avais pas trop le temps d'être présente pour ma fille.
Ouais.
Donc du coup, je me suis dit, bah quitte à faire beaucoup d'heures, autant être son propre patron et pouvoir décider d'avoir ses temps libres quand on a envie et quand on a besoin.
Tu étais installée dans la région déjà ou
Alors j'ai travaillé dans des cliniques vétérinaires en Saône-et-Loire. Après, on n'est pas très loin, je suis sur la commune de Poil, donc c'est assez limitrophe. Hein. Mais la dernière que j'ai faite, c'est la clinique à Charolles-Vette, donc sur Charolles. Et puis non, c'était pas très très loin. Oui. Mes parents sont natifs du Morvan, donc c'était un petit peu un retour aux sources aussi.
Oui, j'ai oublié de te demander, ta production, tu es située où exactement ?
Bien, sur la commune de Poil.
Oui.
L'exploitation est sur la commune de Poil. Par contre, les ruches sont réparties un petit peu partout, mais que dans le parc du Morvan. Ça, c'est un souhait que. Enfin, c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre à l'honneur, quoi, les bocages de chez nous, quoi.
Et alors, comment on fait pour répartir ? Parce que j'ai plein de questions, parce que moi, l'apiculture, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Plus simplement, comment on fait pour devenir apicultrice ?
Alors, c'est une filière agricole, donc il faut. C'est considéré comme un métier, comme un métier agricole, donc on est chef d'exploitation. Donc, il faut avoir un diplôme agricole ou passer un équivalent, en tout cas, si on veut pouvoir s'installer en tant qu'agriculteur et bénéficier des aides de l'État. Après, voilà, je pense qu'il y a des moyens de le faire sans ça. J'avoue que je ne sais pas trop s'il faut ou pas. Être agriculteur au préalable ou avoir un diplôme agricole au préalable.
Mais tu fais, as suivi une formation spéciale, t'as fait une école spéciale ou...
Alors, moi, j'étais déjà issue d'un diplôme, enfin, j'avais déjà fait des études là-dedans, donc j'avais déjà un diplôme agricole, mais qui n'avait rien à voir avec l'apiculture, puisque c'était dans le domaine équestre. C'était un bac pro hippique.
Mmh.
Et puis, j'ai juste fait de mémoire 2 ou 4 semaines de formation. C'est UCAIR d'un BPREA. Enfin, pas parler à grand monde, mais en gros, c'est juste une spécialisation en apiculture pour valider cette partie-là, quoi.
Mais tu as fait des stages chez des apiculteurs ou ça t'est venu facilement ou je sais pas où tu as testé, comment ça se passe?
Parce que les formations, c'est théorique, hein. On n'a pas d'obligation de stage, donc on retourne à l'école, hein, tout simplement.
Ouais, bien sûr.
Même s'il y a un rucher école où on fait de la pratique, c'est pas on n'a pas une vision d'une exploitation professionnelle.
Ouais.
Donc non, après j'avais déjà des connaissances à droite à gauche, donc j'avais déjà aidé des apiculteurs, j'avais déjà travaillé un petit peu comme ça pendant l'été, donner des coups de main, ce genre de choses,
oui, donc
à des professionnels. Donc j'avais déjà une vue quand même de à quoi ça pouvait ressembler à un niveau professionnel, quoi.
D'accord. Et alors, pour acquérir les ruches et les abeilles, comment ça se passe, hein?
Après, il faut, pour se lancer, il faut les acheter, en fait, auprès, ouais, auprès d'éleveurs, de sélectionneurs. C'est mieux, pour être sûr d'avoir une bonne base. Moi, j'ai eu la chance de... En fait, j'ai beaucoup aidé la ferme apicole Fougerette. C'est à Étang-sur-Arroux.
Ouais.
C'était une exploitation qui avait à Étang-sur-Arroux. Les propriétaires ont pris leur retraite, donc du coup, ça m'a permis, moi, à mon installation, quand eux, ils partaient en retraite, de m'installer avec une partie de leur cheptel. J'ai racheté une partie de leur cheptel pour m'installer et commencer avec déjà une cinquantaine de ruches en production dès la première année, quoi.
Ah oui, 50 ruches déjà.
Oui, pour commencer, oui, pour vite monter le cheptel, il vaut mieux partir sur une base assez conséquente pour très vite, en fait, faire des essaims, fabriquer des essaims artificiellement.
Mais alors, tu as combien de ruches actuellement ?
Là, je suis à peu près à 240 colonies.
Ah ouais, d'accord.
Oui, en professionnel, il en faut quand même, il en faut quand même beaucoup pour pouvoir en vivre. Mais c'est du travail aussi.
Ah ouais, ok, d'accord. Donc, comment ça se passe pour gérer autant de ruches, quoi? Enfin, c'est énorme, quoi. Il faut que tu saches exactement où elles se trouvent. Tu sais pas, t'as un fichier Excel, tu sais que celles-ci, elles sont là, enfin, ou elles sont toutes au même endroit. Comment tu fais pour gérer ce genre de choses?
Alors, elles sont pas toutes au même endroit, parce que ça ferait trop de ruches sur un même emplacement. Il y aurait pas suffisamment de ressources dans la nature pour qu'elles se nourrissent.
Ouais.
Donc non, elles sont réparties en gros sur des ruchers de 25-30 ruches. Ça dépend du potentiel mellifère de la zone, quoi. Et puis, effectivement, j'ai un fichier, un petit fichier secret où j'ai tous mes emplacements notés.
Ouais.
Et effectivement, c'est des suivis à la ruche, comme on pourrait avoir un suivi en élevage, parce que je fais de l'élevage, hein. Je fais mes propres rennes, je crée mes propres essaims. Donc, effectivement, j'ai besoin de savoir ce que chaque colonie à produits en miel, est-ce qu'elles sont gentilles, enfin voilà, plein de paramètres qu'on vérifie, mais sur chaque colonie, donc sur les 240 colonies, elles ont toutes ce qu'on appelle un registre en fait d'élevage propre, c'est-à-dire qu'elles ont toutes, à chaque visite, toutes les semaines pendant la saison, hein,
ouais,
là en gros d'avril à août, elles ont toutes un suivi très régulier pour savoir chaque ruche, qu'est-ce qui se passe dedans. C'est une ruche, c'est une unité de cheptel, c'est comme on pourrait avoir une vache, quoi. Au lieu d'avoir une vache, on a une ruche.
Ah ouais. Mais alors, pour les disséminer comme ça dans le Morvan, il faut tu fais comment? Tu t'arranges avec des gens? Tu vas, parce que tu peux pas les laisser un peu n'importe où. Enfin, tu risques de te les faire voler ou ce genre de choses.
Oui, puis c'est interdit. Il y a quand même une législation sur l'implantation de ruchers qui est différente en fonction des régions,
oui,
et des départements.
D'accord.
Mais il y a quelques petites subtilités, mais en gros, c'est la même chose. Donc oui, on ne peut pas les mettre n'importe où. Et surtout, alors moi, je les place essentiellement chez des agriculteurs.
D'accord.
Et soit des agriculteurs qui font un peu de culture en bio ou pas forcément, et qui du coup sont intéressés pour avoir ces abeilles qui vont polliniser un peu plus leur culture, ce qui fait qu'il y aura des plus gros rendements. Et puis globalement aussi parce qu'ils aiment le miel et qu'ils sont contents d'avoir leur petit pot de miel à la fin de la saison, des ruches qui sont chez eux, quoi.
Ok, vas-y, tu peux amener des ruches chez moi.
Avec plaisir.
Faire un petit pot de miel. Mais bon, moi ça va pas me suffire, un petit pot de miel après. Mais bon. Donc tu vas les visiter toutes les semaines, tu vas visiter l'ensemble de tes ruchers, c'est ça?
En fait, c'est ça. C'est-à-dire que pendant donc ce qu'on appelle la saison apicole, là où elles produisent du miel, où il y a du travail à faire, en fait, sur les colonies, toute cette période-là, effectivement, je vais y aller toutes les semaines, à part s'il y a des problèmes de météo qui font qu'on ne peut pas les ouvrir parce qu'il pleut, parce que voilà, ouais, c'est pas un temps idéal. Mais sinon, effectivement, il faut y aller toutes les semaines, ouvrir la ruche, vérifier toute la colonie,
ouais,
pour s'assurer que tout va bien, qu'elles produisent bien, que la reine pond bien, enfin plein de choses à vérifier, qu'elles essaiment pas, qu'elles veulent pas partir pour faire des nouvelles colonies, quoi, ce qui est en fait naturel chez l'abeille, hein, c'est sa façon de se reproduire, hein, de pérenniser l'espèce, en fait.
Mais comment tu fais pour les empêcher de partir dans ces cas-là, si elles veulent partir?
Eh bien, en fait, on a plusieurs moyens de prévention de ça. Le premier, c'est de faire justement une sélection génétique, d'avoir des abeilles qui n'ont pas cette tendance à vouloir essaimer, ou très très peu.
D'accord.
Et aussi, bien surveiller les miellées, parce que c'est quand il y a une forte miellée, souvent, qu'elles n'ont pas trop de place dans la ruche, qu'on n'a pas mis assez de hausse, que là, elles vont se dire, bon, bah, c'est bon, on a tout rempli, il n'y a plus de place, bon, ben, on y va, quoi, on se reproduit. Alors que si elles n'ont pas, elles ont pas le temps de penser à ça, en gros, je vulgarise volontairement, là, elles ne vont pas essaimer. Et nous, on passe quand même toutes les semaines pour vérifier qu'il y a suffisamment de place, qu'elles n'ont pas envie d'essaimer. Enfin, voilà, il y a plein de paramètres à vérifier, donc c'est très important d'y aller toutes les semaines.
D'accord. Juste avant, tu disais si elles sont gentilles. Enfin, j'avais l'impression que tu leur mettais un trait de caractère. Est-ce que c'est possible, ça, ou pas?
Oui. En fait, il faut savoir que l'espèce d'abeille qu'on utilise communément pour l'apiculture, c'est l'Apis mellifera. C'est la race comme ça, non latin. Et en fait, il y a 24 sous-espèces. C'est-à-dire que... l'abeille, ça peut être de l'abeille type Buckfast, celle qu'on utilise majoritairement tous en professionnel, qui est une abeille hybride, en gros, travaillée pour la production de miel. Mais il y a plein d'autres types d'abeilles, de la caucasienne, de l'italienne. Enfin, voilà. Il y a 24 sous-espèces, donc on peut travailler avec 24 types d'abeilles différentes et faire des croisements. Donc, c'est vraiment très, très large. Et après, oui, on les sélectionne parce qu'elles sont sympas aussi. On peut les sélectionner pour plein de choses quand on fait du venin d'abeille.
Qu'est-ce qui te fait dire qu'une abeille est sympa? C'est parce qu'elle produit bien, c'est ça?
Alors, non, la production, c'est encore un autre critère. Non, la gentillesse de l'abeille, c'est pouvoir aller visiter la ruche, justement, très régulièrement, les ouvrir, même quand c'est un peu orageux, quand les conditions sont pas top, et que les abeilles nous sautent pas complètement sur le voile, qu'elles aient envie de nous piquer, faut qu'elles soient douces, quoi, que vraiment on puisse les manipuler sans être équipé avec un scaphandrier intégralement, ce qui est pas hyper agréable quand il fait très chaud, quoi.
D'accord. Et alors, quand tu parles des sous-espèces, dans ces cas-là, tu vas choisir une sous-espèce en fonction de sa production, alors?
En fonction de beaucoup de critères. Faut qu'elle produise du miel en quantité, parce que le but, c'est produire du miel, qu'on travaille, quoi. Faut qu'elle produise du miel, faut qu'elle soit sympa, faut qu'elle soit, on va dire, hygiénique. C'est un critère important, mais qu'elle résiste en gros aux maladies, qu'elle soit très résistante aux maladies, qu'elle se défende bien contre le frelon, par exemple, contre un prédateur des abeilles. On vérifie une dizaine de paramètres, qu'elle a un joli couvain, qu'elle gère bien ses provisions l'hiver, il y a plein de paramètres. Et si elle rentre en gros dans tous ces critères, c'est effectivement des reines que je vais garder pour faire de l'élevage dessus. Après, pour renouveler aussi le patrimoine génétique, pour pas qu'il y ait trop de consanguinité, il y a aussi la possibilité d'acheter des reines. C'est des éleveurs, c'est ce que je fais aussi, hein. Quand je veux renouveler un petit peu ma génétique, tous les ans, en gros, j'achète 2 à 3 reines qui sont inséminées par des autres professionnels que moi, des éleveurs qui sont assez connus et qui font un travail qui m'intéresse. Et j'en achète, en gros, tous les ans, 2 à 3 pour renouveler ma génétique. Enfin, voilà.
Alors, c'est plutôt technique. J'en suis bouche bée, sans blague. moi, je me disais, c'est... Parce que... Le fait de, par exemple, tu te balades en forêt ou un endroit, puis tu vois une ruche, est-ce que tu vas la prendre? C'est peut-être pas intéressant, alors, vu ce que tu m'en dis, parce que justement, c'est pas la bonne sous-espèce sur laquelle tu risques de tomber.
En fait, quand on fait de l'apiculture de loisir, en général, ce que font beaucoup d'apiculteurs en loisir quand ils commencent et qu'ils veulent avoir quelques ruches chez eux, c'est qu'ils récupèrent justement les ruches qui ont essaimé, les essaims sauvages, quoi. Quand on appelle et qu'on dit « Ah, il y a des abeilles dans la haie ou n'importe quoi », ils vont les récupérer. Et en fait, nous, c'est vrai qu'en professionnel, ça nous intéresse pas de récupérer ces abeilles-là parce que c'est du coup des abeilles qui ont ce qu'on appelle une velléité d'essaimage, qui ont tendance à beaucoup essaimer. Donc, c'est pas des abeilles qui vont produire du miel, en fait. Elles, ce qu'elles veulent, c'est pérenniser l'espèce et se reproduire. Et souvent, c'est des abeilles qui sont agressives parce que le fait de ne pas faire de sélection, on se retrouve avec des abeilles qui développent pas forcément des caractères très intéressants, dont l'agressivité. Donc, et c'est des abeilles plutôt noires, locales. C'est ce qu'on a originellement, je ne sais pas si ça dit originellement, j'ai un doute, dans le Morvan.
D'accord. Mais alors, ça veut dire que c'est vraiment des abeilles spécifiques génétiquement que tu vas choisir. Donc...
On est éleveur, donc on fait de la sélection génétique comme on pourrait le faire sur d'autres espèces d'animaux. C'est pas spécifique à l'abeille, mais c'est juste que c'est à une échelle tellement infime, quoi. C'est un hyménoptère, donc c'est très petit, quoi. Donc c'est vrai que quand on dit qu'on fait de l'insémination sur des reines, on se dit c'est microscopique, quoi. C'est des tout petits outils.
Mais comment tu fais de l'insémination sur une reine? Alors là, je suis sur le derrière, excuse-moi, mais ça...
On en apprend tous les jours.
Ah ouais, carrément. Comment tu insémines une reine? Je croyais que ça se débrouillait tout seul, ces bêtes-là.
Alors, ça se débrouille tout seul dans la nature, effectivement. Bien tous sûr. Les animaux sont capables de se reproduire tout seuls. C'est leur instinct de base, heureusement.
Oui, mais là, c'est tout mais, petit.
Voilà, là, c'est tout petit. Donc, c'est comme on pratiquerait une insémination sur un autre animal d'élevage, hein, que ce soit une vache ou autre. C'est l'humain qui vient avec des outils inséminés. En fait, on récolte la semence des mâles, en fait, sur ce qu'on appelle un capillaire, quoi. C'est un petit tube en verre dans lequel est contenue la semence, quoi.
Ouais.
Et du coup, on pratique une anesthésie ou une narcose, si on peut dire ça. On endort très légèrement, suffisamment pour pas qu'elle sente qu'on vient l'inséminer, mais on l'endort très légèrement pour pouvoir la manipuler, la reine, en fait.
Ouais.
Comme quand nous, on fait opérer, qu'on nous met un petit masque, et puis on nous dit respirez bien, comptez, et puis hop, on s'endort, quoi. Bah, la reine, c'est pareil, sauf que c'est vraiment à échelle tout petit, quoi. Et après, on vient l'inséminer.
Ah ouais, d'accord.
Donc, il faut des bonnes loupes, quoi.
Ah oui, carrément. J'entends bien qu'il faut des bonnes loupes. Puis, il faut bien connaître l'animal. Enfin, moi, je ne pensais pas qu'on puisse avoir une connaissance quand on est... Alors, peut-être, comme tu dis, c'est les apiculteurs de loisirs. Toi, t'es dans le domaine professionnel, quoi. Je m'entends bien. Et comment tu fais pour reconnaître une reine ?
Oh, elle est très reconnaissable, la reine. Enfin, je dis très, comme si c'était facile. Non, quand on débute, c'est pas facile. Mais en gros, la reine, quand on regarde les abeilles dans la ruche, les abeilles, elles se ressemblent toutes. Elles sont toutes identiques. La reine, elle va être légèrement différente quand même. Elle va avoir un abdomen qui est plus développé, plus long, quand elle est fécondée. C'est-à-dire qu'elle s'était fécondée, donc elle a rempli en gros sa poche qui lui sert à stocker les spermatozoïdes, le sperme qu'elle a. Ouais. Qu'elle a récupéré lors de sa fécondation, enfin bref. Et du coup, elle a l'abdomen qui est beaucoup plus grand, plus allongé, plus lourd. Alors que les autres abeilles, elles n'ont pas du tout cette particularité-là. Elles sont plus petites, quoi. Elles se ressemblent toutes, alors que la reine, on voit, ok.
Oui, voilà. Mais toi, tu me dis que c'est toi qui... elle va être fécondée, elle va être inséminée. Donc, au départ, elle n'est pas fécondée. Donc, comment tu fais pour la reconnaître ?
Parce qu'on a l'habitude. Honnêtement, elle est légèrement différente, mais c'est vrai qu'une reine dite vierge, hein, quand elle n'est pas encore fécondée et qu'il faut la trouver pour la sélectionner, pour aller la reproduire ou en tout cas la repérer et la marquer, avec un petit dossard pour connaître le numéro de notre reine, faut avoir l'habitude, tout simplement.
Et alors, qu'est-ce qui fait que dans un rucher, il y en ait une qui soit une reine, qu'est-ce que je dis ? Dans toutes ces abeilles, qu'est-ce qui fait qu'il y en ait une qui soit la reine ? C'est quoi ? C'est la génétique ? C'est quoi qui décide ?
En fait, pas du tout. La reine, en fait, elle est élevée dans une... dans les cadres qu'on voit dans les ruches. La plupart du temps, on a des cadres de couvain d'abeilles. Hein. On les voit, on voit à quoi ça ressemble, c'est des petites alvéoles. Voilà, il y a plein d'abeilles qui vont naître. Et la reine, en fait, elle est élevée dans une alvéole, dans une cellule qui est différente des autres. Elle n'est pas dans le même sens que les autres, elle est à la verticale. Sur le cadre de la ruche, elle est complètement à la verticale. Elle est beaucoup plus longue, beaucoup plus grosse. Et surtout, en fait, ça va être un œuf qui va être nourri exclusivement avec de la gelée royale, hein, cette préparation que sont capables de produire les abeilles, qui fait que ça va donner une reine, en fait.
Oui, mais au départ...
particularité-là.
Ça, j'avais entendu parler, mais au départ, ils vont prendre sur un œuf au hasard, quoi.
Ouais, exactement. C'est-à-dire pour élever une reine, ça va être... soit la reine qui va pondre directement dans cette cellule qui aurait été construite par les abeilles, soit les abeilles qui vont aller chercher un petit œuf qui a été pondu dans une cellule qui était à la base faite pour être une abeille. Puis cet œuf-là, hop, elles vont aller le mettre dans cette cellule, fabriquer une cellule différente. Et le fait de nourrir cet œuf avec uniquement de la gelée royale va produire une reine.
Ah ouais,
mais il faut qu'à la base, ce soit un œuf qui ait été pondu par une reine qui a voulu pondre une abeille, hein. Attention, ça peut pas être... Parce qu'elles pondent aussi des mâles, les reines.
Ouais,
donc, si c'est un œuf qui est un mâle, ça marche pas, quoi, du coup.
Oui, il faut que et donc, elles vont reconnaître un œuf femelle d'un œuf mâle, alors.
Oui. Elles ont cette capacité
de savoir.
Mais c'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, c'est ça.
C'est puissant, quand même. Hein. Ah ouais, je suis perplexe. Et donc, toi, tu as... Je vois, parce que j'ai vu quelques photos sur ton site internet, hein, bien sûr.
Oui.
Donc, tu marques les reines.
Tout à fait.
Pour quelles raisons tu les marques, les rennes? Tu leur mets un petit dossard, d'ailleurs, un petit dossard, ça me fait rire. Oui. C'est quoi que tu leur mets, en fait? C'est tu les marques avec un feutre
Alors, en fait, non. On marque... alors, oui, on les marque. Non, pas avec un feutre. En fait, on marque les rennes pour connaître l'année de naissance de la reine, déjà. Il faut savoir qu'au niveau français, je me demande si c'est pas européen ou international, je sais pas. En tout cas, voilà, on marque avec une couleur et chaque année a sa couleur. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Tous les apiculteurs professionnels, on fait tous de la même façon pour que tout le monde sache une reine, par exemple, de telle couleur, c'est telle année, telle... Enfin, voilà. En gros, il y a un repère code couleur par année. Et en plus, donc c'est un vernis, en fait. Simplement un vernis qu'on vient apposer sur le thorax de la reine. Donc, on les marque d'une couleur. Et en plus de ça, quand on fait de l'élevage, de la sélection génétique sur les reines, on vient mettre en plus un numéro, donc un dossard. C'est un petit dossard, c'est un tout petit dossard qu'on achète. Hein,
ah ouais.
Et avec un petit point de colle, on vient le coller sur le thorax de la reine, qui est pareil, avec une couleur et un numéro. Comme ça, on sait, nous, l'origine, la souche de la reine qu'on a dans la ruche, qu'on souhaite garder. Ça nous permet, nous, en tant que professionnels, de savoir quel numéro correspond à quoi. Quand on en fait beaucoup, on ne sait plus.
Oui, voilà. Mais alors, quand on en fait beaucoup, justement, je lis aussi que tu vends des reines, tu vends des ruches, donc, j'imagine...
Alors, les reines, j'en vends pas. Bon, j'en vends un petit peu aux professionnels du coin pour essayer d'avoir tous à peu près la même génétique, mais je le fais quand j'ai des reines en surplus pour les professionnels du coin. Je le fais pas du tout pour les particuliers et c'est pas quelque chose que j'ai le temps de faire à grande échelle.
Pourquoi vous voulez tous avoir la même génétique?
Alors, moi, mon but, c'est de pas être pollué, en gros. Alors, c'est pas très, très joliment dit, mais je veux pas être pollué par une génétique... autre que celle qui m'intéresse, des abeilles justement qui veulent essaimer, voilà. Donc comme les abeilles, elles volent quand même sur un rayon de 3 km et les reines plus pour aller se faire féconder, si autour de chez moi j'ai d'autres professionnels qui ont des semi-professionnels qui n'ont pas une bonne génétique, le truc c'est que ma reine elle peut se faire féconder par des mâles que j'ai pas choisi. Et du coup, ça me fait, c'est pas le bon mélange que j'ai envie.
D'accord. Ah ouais, quand même, c'est réfléchi, hein.
Oui, c'est réfléchi. C'est pour ça aussi que quand j'ai des professionnels ou des semi-professionnels qui m'appellent pour renouveler éventuellement leur cheptel ou parce qu'ils ont un manque, etc. Si moi j'ai du surplus, oui, je fonce.
Ah ouais, d'accord, ok. Et alors donc quand t'as ce surplus pour les stocker, tu les stockes dans des ruches et puis tu quand même tu les laisses travailler jusqu'à ce que quelqu'un vienne te les acheter.
Oui, alors en fait
ça marche pas comme ça.
Alors oui, effectivement, on a on va dire une banque de reines. Elles sont stockées dans une toute petite colonie qui n'est pas une ruche classique, hein, qui est vraiment une toute petite colonie qui permet d'élever les reines, en fait, ce qu'on appelle des nucléés de fécondation.
Wow.
Pour être tout à fait précis, donc c'est une toute petite ruchette, c'est une ruche version miniature. Ouais. Et effectivement, là, à la fin de saison, typiquement, toutes celles que j'ai en trop, eh ben, je les stocke parce qu'on ne sait jamais si j'en ai une qui meurt pendant l'hiver, si j'en ai une au printemps que je me rends compte qui est finalement pas top, je peux la changer. Enfin, voilà, elles me servent effectivement de surplus. Par contre, si vraiment personne ne veut m'en acheter en professionnel et qu'il m'en reste trop au printemps, ce qui m'est jamais arrivé, hein, et que j'en ai pas besoin, bon, bah là, effectivement, soit je vais la mettre en ruche et je vais augmenter mon cheptel. Et si vraiment, dans un cas exceptionnel, j'en ai pas besoin, bon, bah, je les supprime, mais ce n'est encore jamais arrivé. On trouve toujours à les placer.
Ouais,
là, il n'y a pas de problème.
Okay. Très bien. Bah, disons, c'est super intéressant tout ça.
On pourra en parler pendant des heures.
Ouais, c'est super. C'est pour ça, on va peut-être un petit peu se calmer. Je vois que tu proposes l'initiation à l'apiculture, c'est ça?
Oui.
Ça, c'est bien ça. Et tu as beaucoup de personnes qui se présentent, qui se proposent. Comment ça se passe, cette initiation exactement?
Alors, les initiations à l'apiculture, ça se fait que donc en saison, quand on peut ouvrir les ruches, donc là c'est fini.
C'est à quelle saison alors? Rappelle-moi. Quelle
ça
saison
va recommencer en gros, normalement, en fonction de la météo, fin avril, début mai.
D'accord.
En gros, c'est ça. Après, sur le site internet, effectivement, on peut directement s'inscrire. Il y a les dates qui vont apparaître dès qu'on saura un peu plus comment la météo va se présenter, début de printemps prochain. Donc là, effectivement, il y a les dates. Il suffit juste de sélectionner et de s'inscrire, quoi. Et je fais des groupes de 7 à 8 personnes maximum. Après, il y a un petit passage théorique au début, c'est très important pour savoir comment se comporter au niveau des ruches, au niveau sécurité, et puis connaître un petit peu le matériel, parce qu'on n'a pas tout en place en même temps sur les ruches.
Ouais.
Donc comment les gens voilà, visualisent un petit peu tout ce qu'il existe comme matériel. Et puis après, effectivement, on va sur les ruches. C'est-à-dire que j'équipe quand même les gens, hein, je ne vous emmène pas comme ça à la va-vite. Non, non, je vous équipe intégralement. Et puis on descend sur le rucher, on va ouvrir une ou deux ruches en fonction du nombre de personnes et puis du niveau de chaque personne. Et le but, c'est de voir ce qui se passe dans une colonie, de savoir reconnaître un petit peu tout, le couvain, le pollen, le miel, enfin voilà, de voir un petit peu tout ce qui se passe, de soulever les hausses remplies de miel quand il y en a, pour se rendre compte du poids aussi que ça peut faire, enfin voilà, découvrir vraiment l'univers de l'apiculture. Et après, bien sûr, une fois qu'on a bien transpiré, qu'on a bien eu chaud, on pose les combis et on fait une dégustation.
Ah bah ça,
c'est la partie plus sympa.
Ça, c'est la partie plus sympa. Et juste, on voit des fois des gens avec, qui n'ont pas de combinaison, avec plein d'abeilles sur eux. Ça, c'est quelque chose de possible, vraiment ?
Alors, moi, je ne le fais pas avec les gens avec qui je fais des initiations à l'apiculture. Ouais. C'est extrêmement risqué quand même, parce qu'on ne sait pas des fois si on est allergique ou pas. Et puis ça reste un animal sauvage, en fait. Donc, on ne peut pas prévoir le comportement qu'il va avoir. Donc, non, je ne prends pas le risque avec les gens. Après, c'est vrai que nous, en tant que professionnels, quand on est aux ruches, vu qu'elles sont sympas, c'est le but aussi, c'est de ne pas être hyper équipé.
Ouais.
On sait les moments de la journée où il faut y aller pour pas qu'elles soient agressives. Enfin, voilà. On a l'habitude de la pratique. On a toujours effectivement le voile, la combinaison pas loin, au cas où elles auraient un comportement ce jour-là particulier. Mais voilà.
Et tu t'es
on
fait
a
piquer
l'habitude,
des...
on peut se permettre.
Tu t'es fait piquer déjà plusieurs fois ?
Oh oui, tout ouais. le temps en fait.
Tout le temps.
Même si elles sont sympas, on en manipule beaucoup dans la journée. On fait ça plusieurs heures dans la journée, donc et comme on n'est pas très prudent, faut bien l'avouer, vu qu'on met pas tout le temps l'équipement, bah oui, forcément, des fois il y en a une qui passe ou une qu'on écrase et bah elle pique, quoi, c'est normal.
Oh, d'accord, okay.
C'est le jeu.
Écoute, merci pour toutes ces informations. Donc il faudrait que tu reviennes parce que sinon on va y passer des heures. Et là, il faut qu'on s'arrête quand même.
Bon,
voilà. Donc juste pour continuer. Donc tu vends au local paysan. Donc,
oui,
ton
oui,
miel,
oui.
Ça
bien
c'est
sûr.
Important. Tu es au local paysan depuis combien de temps en fait ? Tu vends depuis le début ?
Alors pas depuis le début du local paysan, ça fait 2 ans que j'ai commencé de vendre un petit peu au local paysan. J'avais au début que la partie confiserie, les bonbons,
ouais.
Et le pain d'épices, et je crois aussi la teinture mère de Propolis, enfin, quelques produits. Et là maintenant que le nouveau local paysan a ouvert, je suis passée avec un statut différent, c'est-à-dire que je vais faire des permanences maintenant.
Ah,
j'ai commencé d'ailleurs à faire des permanences, donc je serai de temps en temps au local paysan pour servir les gens. Et aussi, du coup, j'ai le restant de ma gamme de produits. Donc maintenant, les gens peuvent retrouver mon miel au même prix que je le vends, par contre, à la ferme. C'est ça aussi le but, c'est de dire aux gens qui venaient, en tout cas sur le marché le vendredi, comme je ne serai pas tout le temps maintenant sur le marché le vendredi, de pouvoir leur dire « Ok, bah vous descendez la rue plus bas, et puis c'est juste à côté, quoi, c'est au même prix. » Et comme ça, les gens, ça les perturbe pas trop non plus.
D'accord.
Donc voilà, il y a le miel maintenant. Et j'ai aussi sorti, en même temps que l'ouverture du local paysan, pour que ça aille de pair, j'ai sorti une nouvelle gamme de miel. C'est des miels aromatisés. Donc en fait, c'est du miel d'acacia qui va être par exemple mélangé avec de la framboise, de la vanille, enfin plein de goûts différents pour les gens qui sont pas hyper fans du miel tout court, mais qui veulent par exemple avoir des miels un peu plus sympathiques pour les fêtes à offrir ou même pour eux, pour changer. Et ben ils peuvent maintenant en plus petit format du coup avoir des miels dégustation quoi, avec des goûts un petit peu plus sympas.
Sinon, tu fais de la vente directe, donc hein, je vois.
Et je fais de la vente directe à la ferme, bien sûr.
À la ferme, donc rappelle-nous l'adresse de ta ferme, quand même.
Eh bien, c'est 4 lieux-dits Corcel, sur la commune de Poil, bien sûr, en direction de Saint-Léger.
D'accord.
La route. Et c'est ouvert les samedis après-midi, 14h, 17h. Pas tous les samedis, et en plus de moins en moins, puisque là, on va attaquer les marchés de Noël, les foires agricoles, etc. Ouais. Donc, ce sera de moins en moins ouvert. Et voilà, pour le moment, c'est en temporaire, petite boutique temporaire, et normalement, printemps prochain, il y a l'ouverture définitive du magasin de vente directe à la ferme. Donc je ferai une inauguration et tout, mais on aura l'occasion d'en reparler.
Ouais. Sinon, bon, on peut te voir donc au local paysan de Lisieux, au nouveau local paysan, et on aura peut-être l'occasion de te croiser.
Mais oui.
Ça, c'est avec grand plaisir. Écoute, merci. On est obligé d'un peu de s'arrêter. Je te remercie parce qu'il est déjà 45.
Il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup pour toutes ces informations. C'est super intéressant.
Mais de rien, avec plaisir.
Et j'espère qu'on aura l'occasion de te recevoir de nouveau pour remettre ça sur le tapis, parce que je trouve que j'ai encore plein de questions.
Ok, pas de problème.
Merci beaucoup et merci pour ton miel, il est vraiment super. Et puis, bon, on n'a pas parlé aussi des différents types de miel, mais je pense qu'il faut que tu reviennes et tu nous en reparleras.
Okay.
Merci beaucoup.
Avec plaisir, merci beaucoup. Allez, bonne journée.
À très bientôt, bonne journée à toi aussi.
RTL.